Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma aujourd'hui est comme Screwball, la Screwball comédie avec Clara et Julia Kuperberg et Entebin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large, un plan large au générique All Stars ce samedi avec, excusez du peu, Clark Gable, William Powell, Frédéric March, Cary Grant et James Stewart, et pour leur rendre coup sur coup, Claudette Colbert, Carole Lombard, Irene Dunne, Rosalind Russell et Catherine Hepburn, le tout mis en scène par Frank Capra, Grégory Lacava, William Wellman, Léo McCarré, Howard Hawks et George Cukor, tous au service d'un genre majeur du cinéma classique hollywoodien, la Screwball Comedy, ou comédie loufoque en français, enfant de la crise qui fit hurler de rire l'Amérique du début des années 30 à celle des années 40 entre le New Deal et la Seconde Guerre mondiale. La Screwball Comedy tire son nom du baseball, d'une balle à effet, à la trajectoire aussi maîtrisée qu'imprévisible, et imprévisible, elle l'était en effet, ces comédies au rythme effréné, aux situations abracadabrantes, aux personnages excentriques jusqu'à la folie servis par la virtuosité de dialogues aussi pétulants qu'incisif, qui mettait en musique avec un sens affûté de la critique sociale, la lutte des classes et la guerre des sexes, et surtout proposer un nouvel équilibre dans les rapports hommes-femmes, à tel point qu'il fallut longtemps après la fin du genre pour que des actrices puissent retrouver à l'écran des rôles aussi forts et complexes. Pour nous plonger avec délice dans ce formidable laboratoire d'improvisation et de subversion que fut également la Screwball Comedy, deux spécialistes de l'âge d'or du cinéma américain et des mythes hollywoodiens auxquelles elles ont déjà consacré plus d'une quarantaine de documentaires. Il était donc fatal qu'elles entrent un jour dans Plan Large. Clara et Julia Kuperberg sont nos invités pour un coffret DVD dont elles ont assuré la direction éditoriale et qui comporte trois fleurons du genre et un de leurs documentaires titré précisément La Screwball, une histoire de la comédie américaine. À leur côté, le très très Screwball Entebin qui, en fin d'émission, pour rester en Amérique, nous parlera d'Elmer Gantry, le chef-d'œuvre de Richard Brooks, qui donna à Burt Lancaster le rôle de sa vie en prédicateur roublard et exalté. Mais pour l'heure, il s'agit de traverser une rivière quelque part entre New York et Miami.
I wish you'd stop being playful.
Oh, so sorry. Sorry. You know, this is the first time in years I've ridden piggyback.
This isn't piggyback.
Of course it is.
You're crazy.
I remember distinctly my father taking me for a piggyback ride.
And he carried you like this, I suppose?
Yes.
Your father didn't know beans about piggyback riding.
My uncle, mother's brother, has four children, and I've seen them ride piggyback.
I bet there isn't a good piggyback rider in your whole family. I never knew a rich man yet who could piggyback ride.
You're prejudiced.
You show me a good piggybacker, and I'll show you a real human. Now, you take Abraham Lincoln, for instance. A natural-born piggybacker. Where do you get off of that stuffed shirt family of yours?
My father was a great piggybacker.
Here, hold this a minute.
Petite polémique qui se clôt par une tape sur les fesses sur ce que signifie porter à califourchon, piggyback en anglais, quand on traverse une rivière. Une polémique entre un journaliste cynique, dur à cuire et porté sur la boisson, et une très frivole héritière de milliardaire en fugue pour retrouver son playboy de mari, épousé sur un coup de tête pour contrarier son père. C'est bien sûr It Happened One Night, New York, Miami en français, titre parfaitement absurde puisque le trajet qu'emprunte de toutes les manières possibles les personnages du film les mène au contraire de Miami à New York. Il est difficile de délimiter précisément une origine à la Screwball Comedy, mais on peut sans doute considérer ce chef-d'œuvre de 1934 signé Frank Capra, premier film à recevoir les cinq principaux Oscars, meilleur film, meilleur réalisateur, scénario et les deux rôles principaux. On peut considérer donc ce film comme fondateur sans doute du genre, Clara et Julia Kuperberg.
C'est vrai qu'on dit que c'est la première screwball comedy, même si on trouve des traces un petit peu plus tôt. Mais c'est quand même considéré en 34 comme le premier film du genre. Et c'est pas pour rien, parce qu'en 1934 arrive aux États-Unis le code de censure, qu'on appelait le code Hays, et qui interdisait notamment tout ce qui était sexe dans le cinéma. Et donc la screwball, qui était quand même l'art de la verve et du langage, et en fait, on a souvent dit que la screwball était des films sur le sexe sans sexe. Voilà, le sexe passant par le langage. Voilà.
Alors le sexe passant aussi dans ce film par une couverture tendue.
Absolument.
Entre deux lits, Julia Kuperberg, ce sont les fameuses murailles de Jéricho, et on voit comment effectivement on peut sublimer toutes les questions sexuelles et l'acte sexuel lui-même en le montrant de manière tellement suggestive qu'on s'imagine très bien.
Exactement. C'est une de nos scènes préférées, je crois, dans le cinéma américain. Dans le code de censure, comme disait ma sœur, il était interdit.
Auquel vous avez consacré un film entier.
La screwball comedy, oui.
Non, mais sur la question de la censure aussi.
Oui, c'est vrai.
Je vous rappelle,
On avait oublié, d'ailleurs. C'est un très beau documentaire aussi sur la censure. Donc, un des préceptes de la censure, en fait, c'était de ne pas montrer un homme et une femme dans le même lit. Ou alors, s'ils étaient dans le même lit, il fallait qu'il y en ait un qui avait un pied par terre, ce qui était génial. Donc là, Capra a trouvé ce superfuge qui est à hurler de rire. Il tend un drap entre Colette Goldberg et Clark Gable. Comme ça, on comprend que dans la nuit, il se passe des choses, mais il y a un drap les sépare. Donc, pour les esprits puritains sont...
Ça fait deux chambres séparées.
Ouais, c'est ça.
D'où le titre beaucoup plus suggestif en anglais, hein, It Happened One Night. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette nuit?
Voilà.
On vous laisse imaginer. En 1934, on est... plus complètement au début du parlant, mais enfin le muet est encore très récent. Il est frappant, c'est noté dans votre documentaire, Clara et Julia Kuperberg, que la plupart des grands cinéastes de la screwball comedy viennent du muet. C'est le cas de Frank Capra, hein, qui a fait ses débuts chez Al Roach, chez Max Sennett, et puis avec Harry Langdon. Grégory Lacava, dont on va parler tout à l'heure, c'est le grand cinéaste de W.C. Fields. Macaré, c'est celui de Laurel et Hardy. Quel lien avec le cinéma burlesque, le slapstick, comme on l'appelle, N.T. Bean?
On pourrait aussi ajouter par exemple George Stevens, qui a démarré aussi avec Laurel et Hardy. Le lien, c'est un ressort comique qui s'appuie sur le physique, et à partir du parlant, finalement, la voix est aussi une émanation du physique. En revanche, ce qui est bien, d'ailleurs très bien montré dans le documentaire, c'est la différence essentielle d'avec le burlesque muet, c'est que ce sont les héros glamour qui deviennent comiques, ce qui a auparavant était interdit.
Les second rôles normalement qui étaient affectés.
Ouais, c'était les second rôles, ou alors c'était des personnages qui venaient un peu de l'univers clownesque ou du musical, comme au temps du muet. Donc voilà, ça c'est important parce que ça veut dire que, comme le dit le philosophe Stanley Cavell, qui a écrit consacré quand même un livre entier très sérieux à la screwball comedy, c'est à la recherche du bonheur, il dit que c'est un art de la conversation qui permet de redéfinir le quotidien. Il parle de réenchanter, si vous voulez, le quotidien, pour permettre à un couple de se reformer, puisqu'il parle de comédie du remariage, ce qui est un petit peu un sous-genre, hein, évidemment.
Ça, on va l'étudier très vite.
Mais en tout cas, c'est deux personnages qui, comme dans le théâtre classique d'ailleurs, sont faits pour ne jamais se rencontrer et surtout pas s'aimer, et donc forcément, le public va s'attendre à ce qu'il tombe amoureux.
C'est ce qui est très frappant d'ailleurs dans New York Miami, comparé à d'autres comédies dont on va parler, qui sont beaucoup plus des comédies téléphone blanc, on dira, qui se passent dans des demeures luxueuses, c'est qu'on est dans un road movie, c'est aussi un des premiers road movies, qui vont mettre Claudette Colbert et Clark Gable dans des occupations très ordinaires, qui consistent à voilà comment un homme se déshabille, comment manger une carotte crue, etc. Ça, c'est la note proprement Capra, c'est la note Americana de Frank Capra, Clara Kuperberg.
Oui, c'est vrai, oui. Mais qu'on trouve aussi, par exemple, dans les voyages de Sullivan aussi.
De Preston Sturges, voilà, dont on a longuement parlé dans un plan
voilà,
large
donc
précédent.
On n'en parlera pas trop, mais oui, c'est assez rare, parce que généralement, les screwballs, comme en fait, il y a quand même aussi un arrière-fond de social, en fait, puisqu'on est de critique sociale, merci, puisqu'on est quand même juste après la dépression, donc il y a aussi cette critique-là qui est très présente dans le genre. C'est vrai qu'on est souvent dans des demeures chez des riches, qui sont justement tournées en ridicule, souvent, et donc c'est assez rare, ce principe de road movie.
Exemple.
Are you feeling better? No? But just a minute. Godfrey knows how to take care of little Irene. Yes, indeed. Just lie there quietly, and Godfrey will take care of everything. Godfrey knows just how to take care of these nasty old faints. That's the girl. And right up here, there you are. Godfrey will soon fix Irene. Yes, indeed. Just leave everything to Godfrey. Godfrey will take care of everything. Now, you just sit right down there like a good girl, and in just a minute, you'll forget that you had any trouble. I thought so. Let that be a lesson to you.
Godfrey! Oh, Godfrey, don't go away! Oh, Godfrey, now I know you love me.
I do not love you, and you're getting me all wet.
You do, or you wouldn't have lost your temper.
What is the meaning of this, may I ask?
Oh, Mother, Godfrey loves me. He put me in the shower.
What are you talking about?
Godfrey loves me.
Godfrey, I demand an explanation.
I think perhaps, madam, that I had better resign.
Yes, I think you'd better. That's a very good idea. What do you think your father would say to all this?
I don't care what anybody says. Godfrey loves me.
Stay here, young lady. You take a bath and put on some dry clothes and come downstairs immediately.
I'm here.
Oh, I never heard anything like this in my life.
It all young, but she tore me young. I've been from young, and she tore me young. I've been from young.
Shut that thing off.
Bienvenue chez les Bullock, famille déjantée s'il en est, avec par ordre d'apparition les cervelets Irene, totalement ravie d'avoir été douchée par son majordome Godfrey, puisque c'est la preuve qu'il l'aime, sa mère Angelica qui, comme d'habitude, ne comprend rien à rien, le protégé de cette dernière Carlo, le pique-assiette qui prend des airs et chante, on vient de l'entendre, les yeux noirs en roulant des yeux tout en mâchant ce qu'il vient de piquer dans une assiette, et le père complètement dépassé et fataliste, c'est mon homme Godfrey, my man Godfrey. Oui, le film sans doute le plus connu d'un cinéaste toujours rien oublié aujourd'hui, alors qu'il était dans ses grandes années considéré comme un des plus grands, à l'égal d'un Leo McCarey par exemple. C'est Gregory Lacava, surnommé Mr. No par les studios, parce qu'il n'était jamais d'accord avec eux. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre ce film dans votre coffret DVD, Clara, Julia Kuperberg?
Alors, My Man Godfrey, on a découvert ce film en faisant le documentaire, justement, où on n'avait pas vu avant. Et alors, on a été sidérés. Sidérés parce qu'en fait, c'est le film, la Screwball, qui regroupe tous les thèmes de la Screwball. Et on parle de comédie loufoque, et là, on est en plein dedans, parce que, en fait, la Screwball, c'est un genre où il n'y a que des scènes folles. Les acteurs sont cinglés, les actrices sont cinglées, les situations sont cinglées. Et c'est fait avec beaucoup d'humour. Et on entend beaucoup Godfrey dans l'extrême. Moi, j'entends beaucoup la femme crier. Et c'est aussi un genre où les femmes sont vraiment mises à l'honneur. Et elles sont très, très, très féministes comme genre. Et les femmes se font taper, mais répondent. Et tapent aussi. Et donc, on en a l'exemple avec Godfrey.
Ouais, parce que c'est un personnage complètement déjanté, mais qui a décidé d'attraper. En fait, l'histoire, si on résume, c'est elle va chercher ce qu'on appelait à l'époque un forgotten man, donc un homme oublié, c'est-à-dire en fait un hobo, un SDF, enfin qui a souffert de la crise et de la dépression. Et elle le rapporte comme un jouet lors d'une chasse au trésor, en fait. Et elle va l'installer chez elle, dans sa maison de cinglé, effectivement, et en faire son majordome. Et en fait, on se rend compte que le plus sensé de l'histoire, c'est le majordome, dans cette famille de fous. Et c'est vrai que ça crée des situations totalement loufoques, complètement absurdes.
Et on a un bon exemple de l'imprévisibilité de la Screwball Comedy. Je parlais tout à l'heure de cette balle de baseball qui arrive de manière inattendue, mais complètement maîtrisée. Une femme se fait doucher, mise sous la douche par son majordome parce qu'elle feint d'être évanouie, et au lieu de se révolter, elle trouve ça formidable parce que c'est la preuve qu'il l'aime. Voilà. Alors, c'est là qu'on est pas complètement dans la comédie satirique, mais bien dans la screwball comédie, parce que ces personnages complètement extrêmes, qui pourraient être absolument odieux s'ils étaient filmés par un autre, sont sauvés par la mise en scène et par le talent des comédiens, notamment Carole Lombard, qui joue cette jeune femme complètement hystérique et même franchement crétine par moment, est sauvée par son abattage, Anne Thébine.
Oui, et alors ça c'est très caractéristique en plus de cette complicité qui existait entre les comédiens et les metteurs en scène dans les années 30, puisque la plupart de ces films d'ailleurs vont donner lieu à des remakes dans les années 50, qui sont beaucoup plus faibles ou édulcorés sur le plan de la subversion ou même d'une sorte de rythme effréné. Et ce qui est extraordinaire quand on voit Carole Lombard jouer, également dans La Joyeuse Suicidée, qui est dans le coffret, c'est que on a à la fois le personnage et la distance qu'apporte la comédienne sur son personnage. Et elle joue des deux choses à la fois. C'est quelque chose de, c'est vraiment très moderne. Alors évidemment, ça ira dans la carrière très avortée de Carole Lombard, qui mourra très jeune d'un accident d'avion. Ouais. Mais Lubitsch portera ça à un point de perfection dans To Be or Not To Be, puisqu'il lui fait jouer une comédienne. C'est-à-dire que elle est consciente de ses effets et en même temps, elle exprime aussi ses pulsions. Il y a les deux à la fois. C'est le paradoxe de la comédienne.
Votre collègue des positifs, Christian Viviani, Anne Tebbin, émet l'hypothèse que la... Enfin, c'est même pas une hypothèse, d'ailleurs, c'est assez vérifié, que la screwball comédie, c'est aussi le refuge des cinéastes inclassables, rebelles au système, dans lequel ils peuvent trouver un espace, et c'est beaucoup le cas chez Grégory Lacavade, d'improvisation, notamment. Tous les jours, on va donner des nouvelles scènes aux comédiens qui n'ont pas toujours le scénario et qui découvrent au fur et à mesure ce qu'ils font.
Mais d'ailleurs, c'est vrai de Lacavade, c'est vrai de Léo Macaré. Irène Dunne raconte qu'elle attendait, il y avait très peu de prises, mais ils attendaient très longtemps que Macaré réécrive le scénario et leur donne des feuilles au jour le jour. C'est la même chose aussi, par exemple, la scène de la chanson dans l'autocar.
New York-Miami,
a été une scène dont Capra raconte qu'elle a été quasiment improvisée en une scène par les figurants, parce que tout le monde connaissait cette chanson. Mais il peut aussi y avoir l'inverse, c'est-à-dire George Cukor, c'est millimétriquement répété et pour donner l'illusion d'une spontanéité, mais qui vient d'une appropriation d'un texte très soigneusement absorbé.
Our next number tonight, ladies and gentlemen, is entitled The Heroines of History. Catherine the Great, who saved Russia. She could do it, too. Lady Godiva, who saved her virtue. That's the way those things go, folks. Saved Holland by putting her finger in the dike. Show them the finger, babe. Pocahontas, who saved Captain John Smith and later on set him up in the cough drop business. Now, ladies and gentlemen, I want you to meet that little girl from Warsaw, Vermont. That little soldier whose heroic smile in the face of death has wrung tears and cheers from the great stone heart of the city. I humbly invite her now to take her place beside all the great heroines of history, our own. Miss Hazel Flagg.
Vous écoutez France Culture, plan large sur la Screwball Comedy avec Clara et Julia Kuperberg et Anne Tebbin. Et voilà encore un film qui figure dans ce coffret DVD Screwball Comedy. Encore Carole Lombard dans un rôle a priori beaucoup plus dramatique, celui d'une ouvrière du Vermont empoisonnée au radium, promise à une mort prochaine qu'un journal va faire venir à New York pour faire pleurer Margot et vendre du papier et la mettre en spectacle, comme dans cette scène dans un musical où elle est comparée aux grandes héroïnes de l'histoire, avantageusement dénudée, on dira. Sauf qu'évidemment, la malade ne l'est pas du tout. Ça tire donc à la fois de la presse à sensation, des excès de la récupération médiatique et de ce qu'on appelle pas encore la société du spectacle. C'est la joyeuse suicidée, une des rares comédies de ce génie du film d'action qui était William Wellman en 1937. Et le titre original de ce film, Nothing Sacred, rien n'est sacré, on ne respecte rien, définit finalement assez bien l'attitude de la screwball comédie comédie envers ce à quoi elle s'attaque, Clara Kuperberg.
Oui, plus que le titre français.
Okay. La joyeuse suicidée. Oui, voilà, les titres français de l'époque sont toujours
c'est
très
toujours un peu bizarre. Non, mais une fois de plus, on est en plein dans la screwball parce qu'on a des situations complètement absurdes. C'est-à-dire cette jeune fille qui tirait, en plus, c'est tiré d'un fait divers. Hein. C'est d'une histoire vraie. Et qui, en fait, ne va pas mourir. Tout ça est une énorme arnaque. On a tous les préceptes de la presse à scandale et voilà, et de la médiatisation.
Elle dit qu'elle va mourir parce qu'elle veut elle veut visiter New York.
Voilà.
Oui, donc,
voilà.
Du coup, génial. Il lui paye le voyage et tout dans les super hôtels. En fait, voilà. Elle va pas mourir.
Bah, non, elle va pas mourir du tout. Et c'est vrai qu'une fois de plus, on retrouve le physique, c'est-à-dire que l'énergie physique, même la violence physique, puisque les personnages se frappent les uns les autres.
Oui, on a des scènes tout à fait sidérantes qu'on ne pourrait certainement plus faire aujourd'hui, où un homme va cogner celle qu'il aime juste pour lui faire monter la température, si vous voyez ce que je veux dire, qui va répondre à quelqu'un qui dit « mais vous l'avez frappé, là c'est différent, je l'aime », et la femme cogne en retour, quoi. Enfin, on est effectivement...
Et le sexe passe par la violence, de toute façon, dans le cinéma américain, en général. De toute façon, les Américains sont beaucoup plus à l'aise avec la violence qu'avec le sexe. Donc là, on est en plein dedans, par exemple. Et en fait, on dit souvent que la screwball comédie commence là où la comédie romantique s'arrête. Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'argent.
D'enfants.
Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. La screwball commence à ce moment-là, justement. Donc, en fait, ils sont pas mariés, mais c'est comme s'ils étaient mariés. Donc, ils se tapent dessus, ils font vieux couple. Et ils font pas l'amour, mais ça passe par la parole.
Et par la violence physique aussi.
Et par la violence physique, mais les Américains sont beaucoup plus à l'aise avec la violence.
Mais ça passe par le mensonge aussi, c'est-à-dire que et c'est comme ça dès le début, dès New York, Miami, on va prétendre ne pas ressentir ce qu'on ressent. Le mensonge est généralisé, vous l'avez dit, entre le journal qui organise ça, elle qui ment, tout le monde se ment à tel point que quand on finit par se dire qu'on s'aime, on ne sait même pas si on est encore dans la vérité et dans le mensonge. Ce qui est très déstabilisant et fascinant pour le spectateur, Anne Tebbin.
Oui, et ce qui est intéressant également, c'est que c'est un genre qui est très urbain. C'est-à-dire que il y a la satire
qui est non seulement très urbain mais très East Coast. La plupart des screwball comédies, ça ne peut pas se passer en Californie, c'est vraiment quelque chose de la côte est.
Et puis il y a un élément qui est d'ailleurs rapporté par un des commentateurs de la screwball qui s'appelle James Harvey, qui dit que la joyeuse suicidée, donc Nothing Sacred, a cela de très exceptionnel pour l'époque. C'était une screwball comédie en couleur.
Balbutiant du technicolor. Les visages sont un peu trop grimés, ils ont l'air très pâles et très malades.
Ouais, enfin c'est aussi les copies, parce que c'est un film qui est dans le domaine public, donc les éléments d'origine ne sont pas forcément retrouvés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que dans La Joyeuse Suicidée, finalement New York, c'est un peu le pays d'Oz pour Dorothy dans Le Magicien d'Oz. C'est-à-dire qu'elle habite dans une banlieue, une province.
À Warsaw, Vermont.
Où les gens, on est obligé de payer les gens pour qu'ils disent trois mots. Où cet art de la conversation ne peut pas advenir finalement.
D'ailleurs, la sorcière du Magicien d'Oz joue une épicière.
Absolument,
dans
Margaret Hamilton. Oui. Et du coup, elle rêve de New York. C'est de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Voilà, il y a cet univers justement où on pourra à nouveau se parler et construire quelque chose ensemble en riant, en se cognant dessus. Et Wellman, c'est un cinéaste d'action. Qui a fait beaucoup de films d'aventure, etc. Et ce qui est intéressant quand il s'approprie la screwball, c'est qu'il en dégage l'essence, à savoir l'amour est une aventure qu'il faut revivre ensemble.
Why don't you go and play with the dog?
Why don't you go on with whatever you were doing? I'm gonna... Don't mind me. Any new dogs in the neighborhood? Been chasing any cats?
Come on, sit down, Mr. Leeson. Tell me some more about Arizona.
Oklahoma.
I mean Oklahoma. That's me for you.
Hey, is he getting enough to eat lately? He doesn't look very well.
Well, you don't look so hot yourself.
I don't think he's getting enough exercise. He's got circus under his eyes.
Okay.
The court rules.
Hey, what about a tune, boy?
Every so often.
Yes, you see, there's nothing we can do about it.
Let's go.
But don't mind that, Mr. Leeson. Go right ahead.
Atta boy, get on, Smith.
Come on, let's get out of here.
Et voilà qu'arrive dans notre émission Cary Grant, comédien emblématique s'il en est de la Screwball Comedy. C'est avec son chien Mr. Smith qu'il s'exerce au piano lors d'un droit de visite après le divorce d'avec sa femme qui, elle, est en train de se faire courtiser par un vaillant bouseux de l'Oklahoma. L'ex-femme, c'est Irene Dunne. Le prétendant pas à la hauteur, c'est Ralph Bellamy. Il est aussi une vieille tante excentrique. Manque juste dans cette scène le possible amant français. Et le film, bien entendu, c'est Cette sacrée vérité de Léo Macaré. En 1937 également, on avait déjà entendu un extrait de ce film, la scène du tribunal qui devait juger de qui aurait la garde du dit Mr. Smith. C'était dans une chronique de Charlotte Garçon, encore elle, consacrée à Léo Macaré. Le film est absolument génial. Il est connu comme un des grands exemples, précisément de la comédie de remariage dont vous parliez tout à l'heure, Entebbin, tel que l'avait théorisé, analysé le philosophe Stanley Cavell dans cet ouvrage que vous avez cité et avec lequel vous êtes venu à la poursuite du bonheur. Sans doute que c'est le film qui constitue la quintessence même de la comédie de remariage, ce qui fait qu'on pourrait confondre la comédie de remariage et la... Est-ce que c'est la screwball comédie par excellence, Entebbin ? On est à une époque où les femmes se libèrent, où on réinvente le mariage.
Disons que maintenant, on a tendance à mettre plein de mots sur les mêmes définitions. Comédie sophistiquée, comédie du remariage, comédie screwball, comédie loufoque, comédie romantique, tout ça participe en fait du même mouvement hein, qui est né un peu avant la date fatidique de 1934 avec les premiers films parlant de Lubitsch qui souvent sont des opérettes. Et c'est vrai qu'à un moment donné ça se libère et ça prend une forme autonome. Ce que j'adore dans l'extrait que vous avez aussi montré, c'est que il y a l'élément musical qui est très souvent important. Et puis il y a le rire, c'est-à-dire que pour que un couple arrive à construire quelque chose ensemble, il faut qu'ils arrivent à un moment à rire ensemble. Et le rire d'Irene Dunne est quelque chose d'absolument magique. D'ailleurs, Stanley Cavell dit que si on ne comprend pas, si on n'est pas sensible à cette actrice, on peut pas vraiment comprendre ce film. Il y a un autre moment absolument extraordinaire dans le film où elle fait un récital de piano et puis Cary Grant arrive et puis se casse la gueule. C'est un vrai moment de burlesque. Et à la fin de la chanson, elle termine par un petit rire intégré à cette chanson, comme pour sceller finalement l'alchimie, la complicité qui fait que leur divorce ne pourra jamais avoir lieu. Finalement.
Tout le dernier tiers du film d'ailleurs est une pure comédie burlesque là pour le coup, enfin on est quasiment chez les Marx Brothers et c'est normal puisque c'est le Macaré qui réalise le film qui est très payant pour les comédiens. Il faut rappeler que Cary Grant à l'époque où il fait ce film, c'est encore un jeune premier qui envisage plutôt des rôles plutôt sérieux, romantiques, qui va faire ce film avec une certaine réticence, mais où il s'invente, on le voit s'inventer en direct le grand personnage burlesque que va être Cary Grant. Je ne sais pas si vous lui avez déjà consacré un documentaire. Sinon,
il faudrait
le faire parce que c'est un film. On parlait de l'influence du burlesque, du muet. C'est un film aussi qui repose beaucoup sur les expressions du visage, sur les regards et évidemment les mimiques de Cary Grant font merveille. Julia Kuperberg.
Cary Grant, quoi, enfin, notre amour, j'ai envie de dire, ma sœur à moi depuis toujours. L'idée aussi de la screwball, c'est de contester le mariage. Vous dites ça se libère. En fait, les femmes se libèrent. C'est plus que ça. Elles ont le droit de vote depuis 1920. Il y a tout le mouvement des flappeurs. Donc elles se coupent les cheveux, les robes se raccourcissent, elles dansent. Il y a une libération sexuelle
elle
déjà
divorce.
qui s'opère. Et la screwball, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, on entend le chien. Mais les chiens sont super importants dans ce genre parce qu'ils remplacent les enfants. Et comme il n'y a pas d'enfants, parce que la femme se libère, on conteste le mariage, et peut-être qu'elles se disent que, voilà, comme elles sont obligées d'avoir des enfants, enfin, c'est...
Mais on n'est pas dans le cinéma des années 50, quoi.
Non, justement, c'est beaucoup plus moderne. C'est pour ça qu'on aime beaucoup ce genre aussi, c'est parce qu'on voit, c'est la première fois qu'on voit des femmes ne pas vouloir se marier, ne pas attendre après un homme, et avoir des chiens et penser que c'est leur enfant. Donc ça, c'est quand même très drôle et c'est quand même très, très moderne. Et c'est ça, surtout, et là, dans l'extrait que vous avez montré, ils se disputent la garde du chien.
Ce que raconte Stanley Cavell.
C'est le chien qui doit choisir.
Il dit, évidemment, le scénario fait passer le chien pour leur enfant, mais Stanley Cavell nuance, il dit en fait le chien c'est pas leur enfant, c'est leur muse, puisqu'ils se sont rencontrés en achetant le chien en fait. Oui. Donc alors qu'on voilà, c'est pas le cas d'un enfant, et que tant que le chien peut continuer à les réunir, il restera la muse de ce mariage.
Il sera très actif effectivement, notamment via un chapeau melon.
There's something funny going on. Here, what are you doing?
Just wanted to look at it.
Hildy, I'm taking the 9 o'clock train.
Sure.
Did you hear what I said? I said, I'm taking the
9
o'clock train.
Oh, Bruce, I put it in here.
Let her alone, will you, buddy?
Will you do me a favor, Bruce,
Hildy,
please?
I just want you to answer me one question. Something on it. You don't want to come with me.
I need that.
Answer me, Hildy. You don't, do you?
No. Take all those Miss America pictures off, faces.
Hildy, tell me. Please tell me the truth.
Did you ever love me, Hildy? Now, look here, my good man.
You shut up, Burns.
Now, how can I do anything to you?
You're doing all this to her. I know that. She wanted to get away from you and everything you stand for, but you were too smart. What? You caught her and changed her mind.
Take Hitler and stick him on the funny page. Now, let me ask
Hildy,
you, mister, whatever
give up
your name is.
For a man like him?
No, I am not. But, Bruce, can't you see that something's happened? Wait, I'll tell you everything.
Tell him. You tell him nothing. He's a spy, you fool.
I'm not a spy. Come on, Hildy. You're coming with me right now.
Bruce, give me just a second. Can't you? Don't you see this is the biggest thing in my
life? I see. I'll keep.
I'm like something in the icebox, aren't I?
Yeah.
You just don't love
me. Oh, now that isn't true. Just because you won't listen, you say I don't love you. Now you know that isn't the point at all.
What else
the point is that you never intended to be decent and live like a human being?
What's that?
All right, all right. If that's the way you want to think.
Sebastian jumping. I'm trying to concentrate.
You're just like him and all the rest.
Sure, sure. That's what I am.
What? What? No, no. Leave the rooster story alone. That's human interest.
Did you get hold of Butcher
Collier? If you had any sympathy or understanding, you'd understand what I'm trying to do.
I understand, all right. I understand.
Wait, wait. Just a minute. There's only one question I want to know.
What?
Walter.
What?
The mayor's first wife. What was her name?
You mean the one with the ward on her?
Right.
Fanny, what do you say, Duffy?
Hildy, I don't think you ever loved me at all.
Oh, never mind that. You're not working for the advertising
Remember,
department.
If you change your mind, I'm leaving on the 9 o'clock
you
train.
Hold on, Duffy, hold on.
I am, instead of trying to change me into something else. I'm no suburban bridge player. I'm a newspaper man.
That's the stuff, Hildy. Keep it coming as fast as you can. Get back in there, you mock turtle.
Où on retrouve Cary Grant, cette fois avec Rosalind Russell, la fast-talking lady, la femme qui parle très vite, et toujours Ralph Bellamy dans son éternel rôle de prétendant à ex-femme qui n'est jamais à la hauteur.
Provincial,
le pauvre, il est toujours là. Et c'est dur pour lui. C'est la Dame du Vendredi de Howard Hawks en 1940. Alors il y avait, paraît-il, à Hollywood, dans tous les débuts du parlant, un souci absolument panique de faire que les dialogues ne se chevauchent pas, de peur que le public ne comprenne pas. Ici, on l'a entendu... Hawks encourage précisément l'inverse et le spectateur sort de ce film aussi ravi qu'épuisé, N.T. Bean.
Oui, alors il y a une chose très intéressante que dit Molly Haskell dans votre documentaire, c'est que c'est dû aussi à une révolution technique que Hawks instaure sur le plateau, c'est-à-dire que plutôt que la perche avec le micro se dirige à chaque fois vers l'acteur qui va parler, parce qu'on a un scénario, là, il y a plusieurs micros qui sont dispersés dans la pièce, de manière à ce que tous les personnages puissent parler en même temps. Alors effectivement, comme le code Hays interdit que les personnages se chevauchent à l'écran, leurs dialogues peuvent le faire à leur place. Et ce qui était aussi extraordinaire, c'est que dans la pièce originale de Ben Hecht et Charles MacArthur, évidemment, The Front Page, qui est le grand classique du hardball, de la tough comédie des années 20 et 30, eh bien, il n'y a que des hommes. Et l'un des génies le coup de génie de Hawks, c'est d'en faire une screwball comédie, c'est-à-dire que le journaliste Hildy Johnson devient une femme pour permettre à un couple déjà marié de se retrouver à travers, et justement pas le renoncement à quoi que ce soit pour la femme et la promesse d'un foyer familial, mais au contraire devenir l'égal de l'homme, et même si c'est lui le rédacteur en chef quand même, mais en tout cas continuer sa carrière tout en se remariant avec lui. Quoi.
Précisément, on l'a entendu, peut-être qu'on l'a perçu dans cet extrait où tout le monde parle en même temps, elle se présente non pas comme une journaliste, mais comme un journaliste. Elle dit « Je suis un newspaper man » et c'est la femme hawksienne par excellence. C'est là que Hawks rencontre parfaitement la screwball comédie. On va faire bientôt une émission avec Catherine Hepburn et on aura l'occasion de parler de l'impossible monsieur bébé. Les femmes, et ça sera comme ça dans tous les films à venir de Hawks, sont fortes, elles sont autonomes, elles savent s'y prendre avec les hommes, et surtout elles sont aussi professionnelles que les hommes. Et c'est ça qui importe toujours, évidemment. évidemment à Howard Hawks, on pensera plus tard à Slim dans Le Port de l'Angoisse, à Feathers dans Rio Bravo, et tant d'autres encore, Clara Cooperberg.
Bah oui, tout à fait, et en plus c'est marrant parce que dans ce film, il y a une scène justement où à la fin, elle dit non, mais ça va, je vais aller me remarier, enfin elle va avec le fameux Ralph Bellamy, et puis elle dit, je vais avoir des enfants, maintenant j'en ai marre, voilà. Et puis tout d'un coup, il y a un coup de feu dans la cour. Tous les journalistes se précipitent et elle est la première à se précipiter et à envoyer balader sa future vie de ménagère et de femme au foyer. Donc on est vraiment en plein justement dans la femme d'action, la femme qui en plus prend le dessus souvent sur l'homme.
Et ben, Cary Grant est important là, parce que Cary Grant n'est pas le genre d'homme à demander à sa femme d'être une femme au foyer aussi.
Et c'est ce qu'il lui dit d'ailleurs dans le film. Oui, il lui dit je te demanderai jamais de rester à la maison.
Mais là, on ne sait pas trop s'il veut récupérer sa femme ou récupérer l'excellente journaliste qu'elle est.
Oui, les deux. Parce que il ne les dissocie pas justement, et c'est en ça qu'il est, il est féministe comme acteur, Cary Grant.
Et Howard Hawks, sans doute, rirait un peu si on lui disait que son cinéma était féministe. Enfin, il y a quand même de ça chez lui. Entebbe, pour un film qui est encore très improvisé. Il y a des références, là encore, de distanciation où à un moment, Cary Grant va mentionner, par exemple, son vrai nom, Archie Leach, ou va dire, quand on lui demande à quoi ressemble le prétendant de sa femme, il dira, ah oui, vous savez, il ressemble à cet acteur-là, Ralph Bellamy. Voilà. Et ça, ce sont des répliques qui ont été entièrement improvisées sur le tournage, où et c'est peut-être aussi l'élément très important de toute comédie en général, mais de la screwball en particulier, c'est pour ça que vous parliez aussi de l'importance de la musique, c'est le rythme. C'est-à-dire que tout fonctionne sur le rythme, au point que ça peut devenir parfois chez Hawks de la pure mécanique.
Absolument, et c'est très important. Et il y a une chose aussi qu'on sait finalement assez peu, c'est que les grandes stars de l'époque, c'était vrai pour Garbo quand elle a fait Ninotchka, c'est vrai pour Irene Dunne quand elle a fait Cette sacrée vérité, elle le raconte, ou Joel McRae quand il travaille avec Sturgis, les grandes stars ont un pouvoir important, pas tellement sur les scénarios, sur les histoires, mais de pouvoir choisir leur metteur en scène. Et c'est vrai que il y a une conjonction qui est très importante entre le rythme, le timing, la révélation du personnage et le travail de l'acteur qui mériterait d'être, à mon avis, plus étudié, parce qu'on parle souvent des dialogues ou de l'aspect visuel ou social des films, mais il y a ce côté-là, effectivement, le rythme, presque la musicalité des dialogues est quasiment aussi importante que ce qui est dit, et c'est d'autant plus vrai là quand on l'écoute, c'est-à-dire que c'est une cacophonie qui va faire naître une harmonie finalement, et je crois que pour cela c'est quelque chose qui va se perdre dans les années 40 et 50 où ce sera beaucoup plus formaté, plus sage, y compris idéologiquement d'ailleurs, mais là cette possibilité d'anarchie là existe vraiment dans la screwball comedy. C'est ce qui fait que ces films ne vieillissent pas, qu'on peut les voir et les revoir. Je veux dire, à chaque nouvelle vision, on découvre de nouvelles choses.
I am Dinah Lord. My real name is Diana, but my sister changed it.
I'm Elizabeth Imbrie. This is Macaulay Connor.
Enchantée de vous voir. Enchantée de faire votre connaissance. I spoke French before I spoke English. My early childhood was spent in Paris where my father worked in a bank. The house of Morgan.
Really?
C'est vrai, absolument. Can you play the piano? I can, and sing at the same time. Listen.
Lydia, oh Lydia, say have you met Lydia? Oh Lydia, the hair lady. She has eyes that folks adore, so and the torso even more. So Lydia,
what is this?
Lydia, that encyclopedia.
Lydia,
Lydia, the queen of tattoo. On her back is the Battle of Waterloo. Beside it, the wreck of the Hesperus too. And proudly above waves the red, white, and blue. You can learn a lot from Lydia.
Tu es un véritable petit Chopin.
Qu'est-ce que tu?
Mais certes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Voyons, tu es toute pâle. Montre-moi ta langue.
Oh, j'espère bien que ce n'est pas le smallpox.
Le smallpox?
Mais oui, va dire à maman de se dépêcher.
Oh.
Vous écoutez France Culture, plan large sur la Screwball Comedy avec Clara et Julia Kuperberg et N.T. Bean. Dernier film à notre programme Screwball et pas des moindres. Là encore, une des comédies de remariage repérées par Stanley Cavell. On ne s'en sort pas. C'est Indiscrétion, The Philadelphia Story de George Cukor, cinéaste des femmes s'il en est. On avait parlé ici, par exemple, de son femme au casting entièrement féminin qui avait été tournée l'année d'avant. Et face à James Stewart, en écrivain forcé de faire du journalisme people, et invitée sous une fausse identité à un mariage dans la haute société, c'est Catherine Hepburn, la voici, qui surjoue et minaude la distinction aristocratique. Catherine Hepburn, donc, dont on reparlera, je l'ai dit, bientôt dans Plan Large. On peut dire que ce film de Cukor est la pièce dont il est inspiré, hein, dans lequel elle jouait déjà et qui avait été écrite pour elle par Philip Barry, de Philadelphia Story, est tout entier une entreprise visant à sauver le soldat Catherine Hepburn, qui est considérée à l'époque par les exploitants à cause de 7 échecs successifs en salle, comme le poison du box-office. Et tout le film se joue précisément sur cette distance hautaine que ses détracteurs lui reprochent. Clara Kuperberg.
Et oui, parce qu'en fait, elle était considérée comme le poison d'Hollywood. Ses films ne marchaient pas, elle était antipathique. Et donc, la pièce comme le film sont écrits pour essayer justement de la faire un petit peu plus appréciée. Parce qu'en fait, elle est antipathique et elle est la cause de tous les maux dans ce film.
C'est-à-dire tout le monde, reproche tout. Voilà.
C'est ça.
Si le père va voir ailleurs, c'est
elle à cause d'elle. Elle est responsable de tous les désastres du monde. C'est de sa faute et elle doit payer pour. Et le film est fait pour ça, en fait, est fait pour, à l'inverse, tout d'un coup, la rendre sympathique à nouveau aux yeux du public.
Et c'est une entreprise d'humanisation qui passe par le vacillement. Enfin voilà, on s'humanise en apprenant à lâcher prise, N.T. Bean.
Oui, et on le fait grâce à quelqu'un qui, en principe, devrait être le personnage secondaire, qui est joué par James Stewart. C'est pas lui qui termine avec l'héroïne à la fin. C'est un héros qui vient du cinéma de Capra. Donc il est là pour trouver ce qu'il y a d'humain dans cette statue qu'est Catherine Hepburn. Il a la même fonction que Melvin Douglas dans Ninotchka pour Garbo, qui avait elle aussi considérée comme poison du box-office, comme Marlene Dietrich avant qu'elle fasse Désir. Comme si la Screwball permettait une sorte de libération d'un carcan aussi d'une image de représentation de la femme et de la star. Et à la fois l'humanise et la rende plus extrême et lui permette de se rapprocher des spectateurs via la complicité. Parce que il y a une chose très importante, je pense, qu'on n'a pas dite aussi dans la différence avec le burlesque, c'est que dans le burlesque, le spectateur, il est supérieur aux comédiens qui font rire. Hein, c'est alors que dans la screwball comedy, on est au même niveau. Il y a aucune condescendance. On ne rit pas d'eux. On rit avec eux. Et ça, c'est très important aussi, je crois.
Alors, il y a cette question de la différence de classe, hein, mais vous l'avez dit, Catherine Hepburn ne finit pas le film avec l'homme qui n'est pas de son milieu. Elle se remarie avec son ex-mari, qui est donc Cary Grant, qui est tout à fait du même milieu qu'elle. Et on a ça, on parlait tout à l'heure de My Man Godfrey, avec ce majordome, donc sorti des bas-fonds de New York, mais qui s'avère en fait sortir tout à fait du même milieu. Il y a donc une sorte de conservatisme, on pourrait dire, on épouse toujours son milieu. Alors, la grande question finale, tiens, Julia Kuperberg, est-ce que la screwball comedy est un genre conservateur ou est-ce que c'est un genre qui prend acte du conservatisme de la société américaine?
Il prend acte complètement. Faut pas pousser non plus. C'est-à-dire que il peut y avoir des différences de classe et il peut y avoir des flirts, mais à la fin quand même, faut quand même que les choses reviennent dans l'ordre. Donc même si elles choisissent les hommes ou la femme qui sont issus du même milieu social qu'eux, je trouve que quand même, on a passé une heure et demie à se moquer des riches, à se moquer de ça justement. Alors même si on rit, c'est vrai, avec, enfin, c'est quand même une critique. Là, dans Philadelphia Story, elle, c'est l'aristo, elle est riche.
Froide.
Elle est froide. Catherine Hepburn, en plus, symbolise le genre, parce qu'elle est très masculine, elle est très hautaine, comme ça, elle est très... Mais elle a égalité de Cary Grant. Mais elle est quand même au-dessus de James Stewart, quand même, dans le... Enfin, moi, je trouve, hein, mais...
Oui, c'est grâce
à
lui.
On a envie qu'elle aille avec Cary Grant. Oui. Oui, complètement.
Et
c'est pour ça que ça va fonctionner, pardon, avec Spencer Tracy, en fait, hein, après, quand ils vont être ensemble.
Là, vous anticipez sur notre émission, Catherine Hepburn et Thémine.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que celui qui a eu l'Oscar du meilleur acteur, c'est James Stewart pour ce film-là. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque c'est là l'une des rares périodes dans l'histoire d'Hollywood où les comédies gagnent des Oscars ou même sont nommées aux Oscars. Parce que c'est considéré comme un genre mineur. Mais c'est vrai que la révolution, c'était New York, Miami avec ses 5 Oscars ou même Claudette Colbert, elle s'est même pas rendue à la cérémonie tellement elle méprisait ce genre. Pour elle, c'était comme une punition d'avoir fait ça pour la Columbia. Voilà, cette sacrée vérité obtient l'Oscar du meilleur réalisateur. Ce qui est quand même la reconnaissance que le metteur en scène a quelque chose à voir dans l'efficacité et l'inventivité de ce genre.
On est en 1940, la Screwball Comedy a encore quelques petites années devant elle. On peut même se dire que ça s'arrête cette année-là. Qu'est-ce qui fait que ce ne sera plus le grand genre d'Hollywood? Ça sera plutôt après la guerre le film noir. Et en tout cas, les comédies seront beaucoup plus conformistes. Vous montrez dans votre documentaire des scènes presque terrifiantes des films des années 50 où en fait on fait rentrer la femme au foyer.
Ah bah complètement, il faut qu'elle retourne à la cuisine, oui. Il y a la guerre en fait. La guerre change tout. Donc déjà, on n'a plus envie de voir des films frivoles, des films loufoques. On a envie de voir des films plus sérieux, etc. Et puis surtout, la femme a pris son indépendance pendant la guerre. Elle a remplacé les hommes quand même dans les usines. Et à la fin de la guerre, c'est quand même jugé antipatriotique qu'une femme reste au poste occupé par un homme. Donc elles doivent retourner à la cuisine. Donc le cinéma étant quand même aussi une arme de propagande, fait pour faire passer des messages, il n'est pas question que la femme continue à s'émanciper et continue à travailler. Donc il faut renvoyer les femmes dans leur cuisine. Et le cinéma va y participer parce qu'on se retrouve dans les années 50 avec des films totalement différents. Soit on a effectivement le film noir, comme vous le disiez, où la femme est fatale, la femme va mener l'homme à sa perte, ou alors on a la ménagère, on a Doris Day, et voilà, qui va faire des gâteaux à la maison, en gros.
Dear gentle folk of Newport, or maybe I should say hats and cats. I want you to lend an ear because, I want you to hear some really shimmering sharps and flats. For these cozy virtuosi, just about the greatest in the trade, are fixing to show you now precisely how, or approximately, jazz music is made. Well, you take some skins, jazz begins, and you take a bass. Man, now we're getting someplace. Take a box, one that rocks. Take a blue horn, New Orleans born.
Merci Clara et Julia Kupperberg. On se quitte sur cet extrait de Haute Société, le remake d'Indiscrétion en 1956. Évidemment, on est dans les années 50. Tout a changé et c'est Bing Crosby qui remplace Cary Grant. Et oui, le coffret DVD dont vous avez assuré la direction éditoriale, Screwball Comedy, une histoire de la comédie américaine, est aux éditions Montparnasse. Il comporte 3 fleurons du genre dont nous venons de parler, La Dame du Vendredi, Mon Homme Godfrey et La Joyeuse Suicidée, ainsi que votre documentaire consacré au genre et un autre, toujours signé par vous, sur Billy Wilder. Pour en savoir plus sur la Screwball Comedy et ses grands maîtres, on vous renvoie au plan large que nous avons consacré à Preston Sturges, mais aussi à Ernst Lubitsch, qui en a signé au moins une de Screwball Comedy avec La Huitième Femme de Barbe Bleue, et donc Billy Wilder, qui en a utilisé lui de nombreux éléments, même s'il commence sa carrière à la fin du genre. Les liens de ces émissions sont disponibles sur la page plan large du site de France Culture grâce à Pascaline Bonnet. Et puis pour voir d'autres de vos documentaires, Clara et Julia Kupperberg, et savoir par exemple comment Ronald Reagan a dû sa carrière à l'écran, comme en politique, à ses liens avec la mafia, comment la censure du code Hays, on en parlait tout à l'heure, a stimulé la créativité des cinéastes, comment les commères infernales, Luella Parsons et Ada Hopper faisaient la pluie et le beau temps, ou encore comment ce sont des femmes qui ont créé Hollywood avant que les hommes ne les évincent quand ils ont réalisé évidemment qu'on pouvait se faire pas mal d'argent avec ce spectacle forain. Vous pouvez vous procurer le coffret Il était une fois Hollywood, toujours aux éditions Montparnasse, qui rassemble 10 de vos films. Hollywood toujours, avec l'affrontement par films interposés, parfois dans le même film, entre les stars Bette Davis et John Crawford. C'était la Cinémathèque de Toulouse jusqu'au 6 février. Regard croisé sur les carrières des deux monstres sacrés, hors normes, redoutables et redoutés. Et puis en contre-champ, côté sale gosse du cinéma américain, on signale encore en sa présence une rétrospective Paul Schrader au Forum des Images à Paris. Et puis à l'occasion de la sortie mercredi de son Tommaso, qui le montre en cinéaste apaisé et exilé à Rome, une rétrospective en salle des films réalisés par Abel Ferrara avec son interprète de prédilection Willem Dafoe. Mais sans plus tarder, Amérique toujours, mais Amérique profonde cette fois, direction l'Amérique des évangélistes et de leurs prédicateurs exaltés. En 1960, Richard Brooks, l'auteur de Ballet Masque, de Graines de Violence, le film, oui, qui a introduit le rock'n'roll au cinéma, et plus tard de Deux Sangs Froids, Richard Brooks donc réalise enfin un projet qu'il avait en tête depuis 15 ans, l'adaptation d'Elmer Gantry, livre signé par le premier prix Nobel de littérature américain, Sinclair Lewis, qui avait fait scandale en son temps. Il faut dire que l'écrivain frappait très fort avec cette critique féroce du revivalisme américain, ce mouvement d'évangélisation à grand spectacle qui ressurgit régulièrement dans l'histoire des États-Unis. Pour incarner l'anti-héros éponyme, Richard Brooks fait appel à Burt Lancaster, dont il avait écrit comme scénariste les tout premiers rôles à l'écran, dans Les Tueurs et Les Démons de la Liberté, mais surtout, il va associer Lancaster à l'écriture du scénario, ce qui transforme considérablement ce personnage de prêcheur exalté, très caricatural, qu'avait écrit Sinclair Lewis, pour en faire de manière indissociable à la fois un séducteur escroc et un illuminé sincère d'une permanente ambiguïté. De fait, ce sera le rôle de sa vie, je l'avais dit en introduction, de Burt Lancaster. Ça va lui valoir son seul Oscar en 1961. Et en le recevant, cet Oscar, que va dire Lancaster? Eh bien, il va dire « Je n'étais pas fait pour être Elmer Gantry, je suis Elmer Gantry, Ian Tebbin ».
Oui, il y a une autre chose aussi qui est très importante dans la fabrication de ce film, c'est qu'on est à la fin de la grande période des studios hollywoodiens. Et c'est notamment des productions indépendantes, comme celle de Lancaster, qui vont permettre à quelques films originaux de vraiment d'être produits à Hollywood. C'est vrai que ce film aurait été, à mon avis, infaisable dans le cadre traditionnel des studios, tellement il est virulent. D'ailleurs, il y a même un carton qui nous avertit. Enfin,
c'est que, pas pour les enfants.
Voilà, notamment. Il faut pas montrer ça à des jeunes gens trop impressionnables. Alors, c'est un film qui parle de l'Amérique de la crise, celle qu'on a évoquée tout à l'heure dans la Screwball Comedy. C'est donc un film qui parle du passé de l'Amérique, mais qui du coup peut parler plus librement de cette Amérique très conservatrice des années de la fin des années 50 qu'on a évoquée aussi. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ce film reste extrêmement actuel, puisque le vrai sujet du film, d'une certaine manière, c'est le populisme. Et c'est la façon dont on va utiliser la crédulité des masses pour faire revenir la religion, se faire un paquet d'argent. Mais ce qui est formidable dans ce film, comme souvent dans les films de Richard Brooks, qui ont des sujets, disons, à thèse ou qui pourraient donner lieu à des films didactiques, c'est que c'est aussi un film extrêmement haletant. C'est un film dont il est absolument impossible de prévoir ce qui va se passer dans la séquence suivante. Et c'est un film sur des êtres humains qui sont complexes, qui sont déchirés, qui sont torturés, beaucoup plus finalement riche que dans le roman d'origine. Alors d'une part évidemment Elmer Gantry, le charlatan du titre, qui finalement va être touché par une sorte de grâce qui va lui faire, disons, porter un regard différent sur lui-même et se poser des questions. Est-ce qu'il est justement ce séducteur, ce à qui tout tout réussi ou est-ce qu'il est juste quelqu'un qui est raté et qui a juste finalement le bagout nécessaire pour s'en sortir au dernier moment à chaque fois. Vous avez l'évangéliste, le personnage sans doute le plus dangereux dans son mysticisme, qui est Gene Simmons, et qui, alors l'actrice, on comprend que Richard Brooks soit tombé amoureux d'elle pendant ce tournage. Au début, ça se passait mal parce que Brooks est connu pour malmener ses acteurs, et finalement, elle aussi exprime une fêlure de l'image de la femme dans la société américaine, qui est obligée justement d'avoir recours à des subterfuges, de se montrer encore plus forte que tous les hommes qui l'entourent pour arriver à exister. Et puis vous avez le troisième personnage, la merveilleuse Shirley Jones, l'ancienne oie blanche de fille de pasteur qui a été séduite par Elmer Gantry et qui est tombée dans la prostitution et qui va elle aussi essayer de se venger et puis se rendre compte que tout n'est pas si simple, et c'est d'ailleurs elle qui va aussi obtenir comme Burt Lancaster l'Oscar du meilleur second rôle. Donc tout ça c'est aussi une fresque évidemment de la société américaine, mais aussi de la façon dont les sentiments ou les émotions peuvent être soit manipulés, soit bridés par cette société. Il y a une scène absolument extraordinaire, parce que le film aussi bénéficie d'une photo de John Alton qui est éblouissante, qui joue pas uniquement des couleurs avec une utilisation du rouge très audacieuse, mais aussi de l'ombre et de la lumière tout le temps, parce qu'on est dans cette ambiguïté-là. La scène de séduction sous un pont de Gene Simmons par Burt Lancaster, avec la musique d'André Prévin, qui nous fait comprendre ce qui arrive alors que les deux personnages s'enfoncent dans le noir. Voilà, ça c'est vraiment le grand cinéma américain dans ce qu'il a de plus extraordinaire, à la fois son classicisme, mais aussi la transition vers un cinéma plus libre, plus adulte et plus moderne.
It's a mighty hard climb, but I'm on my way. On my way, glory, hallelujah, I'm on my way. All along the way, Satan lies awaking every night and day. Satan lies awaking.
Merci Anne Tebbin. Elmer Gantry, le charlatan de Richard Brooks, c'est en coffret Blu-ray et en DVD, accompagné du livre toujours précis et passionnant de Philippe Garnier. C'est en version restaurée chez Wildside. Et Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Claude Niort. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Séverine Cassard. La semaine prochaine, Plan Large sur un grand maître du cinéma japonais, Kenji Mizoguchi, en amicale pensée à notre cher Jean Douché. C'est à l'occasion de la parution d'un coffret rassemblant 8 de ses films et un livre. Nous serons avec Gabriella Trujillo et Mathieu Macheret, qui nous parlera aussi d'un coffret rassemblant 20 films de Ozu. On sera gâtés côté japonais. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Christine Bernard.
It's a mighty hard climb, but I'm on my way. On my way, glory, hallelujah, I'm on my way. Pray. Take another step higher, higher.
the devil